Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors écoutez, Journée internationale des femmes. Et là, on se disait, on le prend par quel bout? Comment on en parle? Parce qu'à chaque année, ça revient, puis à un moment donné, tu te dis, OK, on aimerait ça arriver avec une façon un peu nouvelle de l'aborder. Et là, on s'est dit, ouvrons-nous les yeux. Regardons un peu partout dans le monde. Il y a des femmes qui mènent des combats incroyables. Des combats qui demandent du courage. Beaucoup de courage. Et là, je vous ai donné quelques exemples, hein, dans l'intro, là. Les attaques à l'acide, le droit de pouvoir marcher dans une rue sans être chaperonné. Alors, tout le reste. Et puis, on s'est dit, ben tiens, on va appeler Diane Guilbeault. Elle est la présidente du groupe pour les droits des femmes, hein, PDF, Québec. Bonjour, Diane Guilbeault.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Je vous entends très bien. Parlons, alors on va y aller en rafale parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment couvrir le maximum de terrain possible. Parlons d'abord donc de ces femmes en Inde qui sont défigurées à l'acide. Il y en a des milliers chaque année qui sont attaquées. D'abord, donnez-nous un petit peu le contexte. C'est des hommes, quoi, des hommes jaloux qui les attaquent? C'est des hommes qui... C'est ça? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a souvent des cas de violence conjugale qui sont déjà dans la maison. Et quand les femmes veulent quitter le foyer parce qu'elles en ont marre d'être battues, les hommes les rattrapent en leur lançant de l'acide dans la rue. Parfois, c'est même les belles familles qui en veulent à la bru, qui vont poursuivre et qui vont lancer de l'acide aux femmes. Et il y a des femmes qui, elles, refusent le mariage. Elles vont se faire lancer de l'acide. En fait, tous les prétextes sont bons. C'est une arme, malheureusement, qui a pris de l'ampleur, probablement parce que l'acide, c'est quelque chose qui est facile à se procurer. Mais je dirais aussi que ça a pris de l'ampleur parce que les procès pour ces gens-là, les hommes ou les personnes qui lancent de l'acide aux femmes comme ça, finissent souvent par des non-lieux ou des peines insignifiantes. Alors, évidemment, c'est pas un crime qui est réprouvé très sévèrement. Alors, ce qui fait que, évidemment, il n'y a pas de dissuasion qui est lancée par la société.
Qu'est-ce que tu veux dire, Diane? Diane, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que culturellement, c'est d'une certaine façon toléré ou à tout le moins les lois qui punissent ce genre de crime ne sont pas vraiment soit sévères, soit votées, soit appliquées?
C'est plutôt ce côté-là. Effectivement, l'application de la loi, elle est légère, c'est pas considéré comme un crime sérieux. Alors, évidemment, ça encourage. C'est peut-être un mauvais mot, mais ça dissuade pas,
voilà,
les gens de recourir à ce moyen de contraindre les femmes à obéir et à rester sages et tranquilles et silencieuses sur leur sort. Alors oui, c'est effectivement un système légal, un système juridique qui assure pas non plus correctement la protection des femmes.
Mais on s'entend.
Évidemment,
oui.
C'est ça, ces systèmes-là. Souvent, ils sont le reflet de la société dominante, parce que je suis sûre qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent pour sortir de cet état de situation. Mais effectivement, quand le système juridique fait faute et n'aide pas les femmes, ça aide pas à dissuader ce genre de crime.
Mais on en entend quand même de plus en plus parler, Diane Guilbeault. Je pense que l'Inde n'aura pas le choix que de bouger là-dessus de plus en plus. Ils sentent la désapprobation internationale. Ils voient bien, ils voient le regard que de plus en plus de gens portent, le regard sévère qu'on porte de plus en plus sur ce type d'agression, de crime dont sont victimes les femmes en Inde.
Oui, mais aussi, je dirais, il y a une mobilisation des femmes en Inde. Actuellement, là, il y a des mobilisations régulières de femmes, de groupes de femmes, de féministes qui luttent contre ces crimes, qui luttent aussi contre les viols collectifs, parce que il y a aussi ce problème important en Inde de viols collectifs qui s'est produit au cours des dernières années, dont on a entendu plus parler au cours des dernières années. Il y a aussi, beaucoup de choses que les femmes, réclament, ne serait-ce que par exemple d'avoir des toilettes. Vous savez qu'actuellement, il y a une grosse mobilisation en Inde pour que les femmes aient des toilettes pour elles, parce qu'elles sont victimes d'agressions. Alors, évidemment, c'est occuper l'espace public, c'est une condition sine qua non de l'égalité, et les Indiennes sont très, très mobilisées actuellement pour obtenir un peu plus de droits, et le droit à la sécurité en étant un, évidemment, des plus importants.
Très bien. Parlons de l'Arabie saoudite maintenant. Bon, il y a le prince Salman qui est arrivé, plus jeune, réformateur. Et là, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées. Nous autres, on part de... Tu sais, on se dit... j'utilise le mot avancée, puis je suis un peu gêné, parce que de permettre à une femme de pouvoir conduire une voiture, tu te dis, voyons donc, mais on ne devrait pas appeler ça un avancé, on devrait appeler ça un acquis, mais qu'est-ce que tu veux? En Arabie Saoudite, effectivement, ils partent de très, très loin, mais il y a quand même eu quelques progrès, mettons.
Il y a des petits progrès, mais moi, je pense pas que c'est bon, peut-être que je suis cynique, là, mais je pense que c'est pas à cause d'une volonté de faire progresser les droits des femmes, c'est parce que les femmes avaient besoin de chauffeurs continuellement si elles veulent sortir. Et puis, ben, finalement, peut-être qu'il manque de chauffeurs pour conduire les femmes. Alors, moi, je pense qu'il y a un côté pratico-pratique en arrière de la décision, plus important que la volonté des femmes de s'émanciper, parce que les restrictions sont encore énormes. Les femmes arabes, saoudiennes, ne peuvent pas quitter leur pays sans l'autorisation de leur mari ou de leur frère, imaginez-vous si elles ne sont pas mariées, ou de leur père. Donc, elles sont vraiment des mineures à vie. Elles sont encore en prison. Elles ne peuvent pas sortir dans l'espace public sans se dissimuler sous un niqab.
Le niqab est encore obligatoire, l'obligation de se couvrir?
Le niqab est encore à l'extérieur de la maison, oui. Alors, évidemment, pour conduire avec un niqab, c'est pas terrible. Je suis absolument certaine que l'angle de vision est restreint, là. Alors, donc, les Saoudiennes qui se battent. Et puis, avec Internet, on voit des fois des petites vidéos où il y a des femmes elles sont extrêmement courageuses d'aller s'exposer comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui militent de façon très, très, très concrète comme ça pour leurs droits dans des pays où elles n'en ont aucun. Je pense qu'on a des leçons à prendre de ce militantisme et de cette capacité d'enfreindre les limites qui sont imposées aux femmes. Alors, moi, je pense que peut-être qu'un jour, on va voir d'autres petites avancées, mais comme vous dites, elles partent de tellement loin que on se demande qu'est-ce que ça va prendre pour vraiment arriver à ce que ces femmes puissent être traitées comme les égales des hommes.
Oui, c'est ça. Bon, parlons de ce combat qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux en Iran. Donc, il faut s'en rappeler, en Iran, depuis 1979, c'est les ayatollahs donc, qui mènent. C'est un gouvernement religieux, c'est une autocratie religieuse très, très, très intégriste qui a progressivement obligé les femmes iraniennes à se couvrir en tout temps. Et là, il y a des femmes iraniennes qui, au nom de l'égalité, disent « je devrais avoir le choix ». De le porter, le voile, ou de ne pas le porter dans des lieux publics. Et là, on voit passer ces bandes vidéo sur les réseaux sociaux où on voit des femmes qui vont grimper après un poteau dans une rue puis qui décident d'enlever leur voile puis de le faire tourbillonner au-dessus de leur tête. Et certaines d'entre elles ont été arrêtées par la police religieuse iranienne. Ça aussi, c'est un combat pour l'égalité qui est très, très, très important, là.
C'est très important parce que, en fait, à cause de l'Iran, l'intégrisme, le régime réintégriste de l'Iran a eu des répercussions partout dans le monde, y compris ici. Résurgence de l'islamisme politique qui a commencé évidemment par couvrir les femmes. C'est toujours le premier pas qui est accompli. C'est on met la main sur les femmes pour bien montrer qu'elles appartiennent à cette religion qui est dévoyée. Hein, je le dis bien, là, c'est vraiment l'islamisme et non l'islam. Mmh. Et donc, ces femmes actuellement qui vont au-devant, qui sont en rendez-vous tous les mercredis, elles se sont donné rendez-vous pour se dévoiler publiquement.
Où ça? C'est à Téhéran que ça se passe, Diane?
Surtout, mais pas seulement. Dans les autres villes aussi, ça se passe aussi dans les régions, ce qui est quand même une très, très bonne nouvelle, parce qu'on sent que ce besoin de liberté, il est très fort. Ce sont des jeunes qui n'ont pas connu probablement la révolution iranienne de 79, qui n'y sont donc pas attachés politiquement, émotivement, et donc qui sont en mesure de rejeter ce modèle de société qui les emprisonne, qui les met encore dans un rôle de second plan.
Mais elles sont emprisonnées. Certaines d'entre elles ont été arrêtées par la police religieuse, la police...
Ça continue, effectivement. C'est pour ça qu'elles sont courageuses, parce qu'elles savent qu'elles risquent la prison. C'est une chose d'aller protester puis de retourner rentrer chez soi, comme on peut faire nous ici très souvent. Mais dans un pays comme un régime politique comme celui de l'Iran, celles qui osent transgresser des règles, et encore plus des femmes, elles font preuve d'un très grand courage. Et pour ceux et celles qui connaissent pas très bien l'histoire de l'Iran, parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas, il y a une très jolie bande dessinée qui est aussi un film que je suggère, qui s'appelle Persepolis, de Marianne Satrapi, une Iranienne elle-même, qui raconte très, très bien l'Iran des années 60-70 et la transformation de la société et le voilement des femmes en 79. Et je pense que c'est important de se rappeler ça pour montrer que les femmes iraniennes, c'est pas des femmes qui sont différentes des autres femmes dans le monde. Elles aussi, elles aspirent à la liberté. Et c'est incroyable de les voir se manifester comme elles le font présentement. Encore là, je salue bien bas leur courage.
Vraiment. Ça s'appelle Persépolis, dis-tu, hein?
Oui.
Persépolis.
Oui.
Très bien. Parlons de l'excision maintenant. Parce qu'en Afrique, c'est encore... En Afrique, notamment, corrige-moi s'il y a d'autres pays en dehors de l'Afrique qui le pratiquent, mais c'est encore pratiqué, malheureusement, l'excision du clitoris.
Ah oui, les clitoridectomies, il y a aussi l'infibulation, c'est-à-dire qu'on coud les lèvres pour pas que, et on laisse un tout petit passage pour l'urine, alors ça amène énormément d'infections. Et c'est fait parfois par des médecins, comme en Égypte, où la grande majorité des femmes sont encore excisées. C'est absolument scandaleux. Et c'est fait aussi parfois par des dames, des vieilles dames du village qui vont couper ça à peu près n'importe comment. Alors c'est vraiment ça, c'est... Les mutilations génitales comme ça, c'est vraiment scandaleux qu'on tolère encore que des petites filles subissent ça. Puis vous savez que dans les pays occidentaux, on est aux prises, nous aussi, avec ce phénomène-là, parce que souvent, avec l'immigration, les familles parfois retournent dans le pays d'origine pour faire mettre leurs petites filles aux normes du pays d'origine. Et c'est très, très difficile de se battre contre ce phénomène-là si on n'a pas un discours très, très clair par rapport à tolérance zéro, comme on dit dans d'autres situations. Et en Afrique, il y a des efforts. Là encore, la mobilisation des femmes est extraordinaire. C'est dans tous les pays, les femmes qui montent au front, qui vont rencontrer les gouvernants, qui leur disent « il faut intervenir, il faut mettre un frein à ça, il faut même criminaliser les pratiques ». C'est par les femmes, là aussi, que je pense que la solution va arriver, entre autres, parce qu'elles savent quelles sont les conséquences de ces pratiques, de ces mutilations. Elles le vivent elles-mêmes et elles sont extrêmement, là aussi, mobilisées. Le féminisme, vous savez, il est vraiment dans tous les pays. Des féministes qui se battent pour le droit des femmes, il y en a dans tous les pays. Et l'Afrique ne fait pas exception comme continent.
Mais je fais une petite parenthèse juste avant d'aller à notre cinquième exemple là, qui nous touche ici, dans notre société. Mais tu parles constamment les femmes. Tu sais, tu dis pour criminaliser une pratique comme celle-là, j'aimerais ça que les hommes aussi soient mobilisés,
oui.
Non?
Oui, mais là, c'était la Journée internationale des femmes. Je voulais parler du combat des femmes.
Non,
oui,
je suis d'accord, mais il y a des hommes. Il y a des hommes
qui. Ça ne peut pas se faire.
Hein?
Oui,
on s'entend,
ça peut pas se faire. On ne peut pas se faire sans les hommes. Vous savez, PDF Québec est un groupe mixte parce qu'on pense que c'est hommes et femmes qui allons pouvoir avancer.
Okay.
Mais effectivement, là, je voulais parler, rendre hommage au
non,
combat
mais
des femmes.
Non, mais
ce n'est
pas un reproche. Pas un reproche que je te fais, mais c'est parce que je le vois bien, on le voit bien, là, que c'est, dans oui. tous ces combats-là, c'est d'abord les femmes qui sont à l'avant-plan. Mais il faut
oui,
que
mais les décisions sont entre les mains des hommes. Ben, alors, effectivement, s'ils ne s'y mettent pas de la partie,
voilà.
C'est comme nous, on n'aurait pas eu le droit de vote, hein, parce qu'il n'y avait pas de femmes au Parlement s'il n'y avait pas un premier ministre à un moment donné qui avait décidé que c'était le temps de donner le droit de vote aux femmes.
Et
alors, oui, tout à fait, vous avez raison complètement.
C'était Adèle Arcot-Boutboul, il faut se le rappeler.
Oui.
En terminant, parlons des femmes chez nous. Et en particulier oui. des femmes autochtones. Parce que là, oui. je veux dire, c'est bien beau de regarder ailleurs, mais il faut se regarder un petit peu oui. aussi, nous autres aussi, là, dans le blanc oui. des yeux. Et on a du travail à faire là-dessus, là.
Absolument. La situation des femmes autochtones, enfin, elle est devenue un peu plus visible. Mais ça fait des années, ça fait des décennies qu'il y a des femmes qui sont tuées, qu'il y a des femmes qui sont disparues, évidemment, violées, agressées. La situation des femmes autochtones au Canada et au Québec, malheureusement, il faut le dire, là, c'est vraiment, je dirais, la honte nationale. C'est notre lumpen prolétariat, c'est notre tiers-monde où les femmes sont en mode survie. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, de femmes autochtones qui sont dans la prostitution parce que c'est un moyen de survie. C'est pas un choix, là, c'est pas un métier qu'elles choisissent. C'est parce qu'elles sont en mode survie. Elles arrivent en ville, elles sont séparées de leur communauté et elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas de scolarisation et elles sont vraiment extrêmement vulnérables. Parfois, elles ne parlent pas la langue, elles ne parlent que leur langue natale. Mmh. Et puis, donc, elles ont été invisibles. Leur sort a été, comment je dirais, moins pris en considération. Faut quand même l'admettre, là. On voit que les efforts pour retrouver les meurtriers des femmes, les femmes qui sont disparues, des adolescentes
ben
qui
oui.
sont disparues, et les efforts qui ont été faits ont été vraiment minimalistes. C'était comme, ben, vous voyez, c'est comme ça.
C'est comme si elles étaient des sous-femmes. C'est comme les femmes autochtones, très souvent, en particulier par rapport à ces crimes-là, là, c'est comme, ah, ben, c'est une femme autochtone, on va pas mettre les mêmes moyens pour retrouver celui qui l'a tué ou celui qui l'a agressé. Dans les faits, c'est ça qui s'est passé, là.
Dans les faits, c'est exactement ça qui s'est passé et on a une énorme côte à remonter pour rendre justice à ces femmes. Moi, je suis contente de voir les commissions, même si ça ne va pas comme sur des roulettes, la commission canadienne ou même la commission vient ici au Québec là, avec les femmes de Val-d'Or qui ont initié les plaintes contre le sort qui leur était fait. Moi, je pense que on a un début de se regarder, de regarder la situation franchement, de parler franchement de la situation et d'être solidaire de ces femmes qui se battent pour une justice. Là, c'est juste minimalement avoir accès à la justice. Oui. C'est pas normal que des adolescentes comme ça disparaissent. Et évidemment, la semaine dernière, quand la personne qui a été accusée du meurtre de Tina Fontaine, vous savez, au Canada, a été acquittée. Moi, je n'ai pas suivi le procès d'assez proche pour juger, mais c'est encore là une petite fille, une adolescente, qui est retrouvée dans la rivière, on s'entend, dans un sac de couchage qui avait été laissé avec des pierres. Donc, elle ne s'est pas suicidée. Là, c'est vraiment un meurtre. Et on n'est pas capable. Est-ce que l'enquête a été bâclée? On est encore une fois de plus devant un fait. Le meurtre, il n'est pas résolu.
Il est impuni. Le meurtre est impuni. Il n'y a pas eu justice.
Il n'y a pas eu justice. Alors, un sentiment d'injustice comme ça, c'est très, très... Ça marque une société. Ça marque des sociétés. Ça marque les Québécois qui ne sont pas autochtones. Mais les Autochtones sont très marqués par ce sentiment d'injustice qui n'est pas juste une perception, qui est vraiment réelle, fondée, avérée. Alors, je pense que cette journée aujourd'hui, effectivement, la solidarité, mon cœur et mes pensées sont avec les femmes autochtones. Et elles auront, chaque fois qu'elles auront besoin, le soutien des autres femmes du Québec, et particulièrement celle de PDF Québec.
Diane Guilbeault, vous êtes la présidente justement de PDF, donc pour les droits des femmes du Québec. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. On va s'arrêter. Et au retour, on aura une femme avec nous en studio. Elle mène un combat, elle aussi. Et le combat qu'elle mène, c'est au nom de sa sœur. Sa sœur qui a été tuée par un pitbull. Alors, vous aurez compris que je parle de Lise Vadnais, qui est la sœur de Christiane Vadnais, qui a été tuée à l'été 2016, dans un instant.